Laudetur Jesus Christus.
C'est un texte qui aura guidé les pas de François et restera l'un de ses héritages. Laudato si célèbre sa première décennie. Nous verrons comment elle a transformé concrètement la compagnie de Jésus. En RDC, l'ancien président Joseph Kabila se voit lever son immunité parlementaire. Il est accusé, selon la justice militaire congolaise, de trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité. Dans ce journal également, un détour par l'île Maurice qui voit revenir dans son giron l'archipel des Chagos. Et puis en Géorgie, les femmes violemment réprimées par la police dans les manifestations pro-européennes.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. C'était il y a 10 ans la publication d'une encyclique prophétique Laudato si, le cri des pauvres et le cri de la terre se répondant dans un dialogue. Ce texte du pape François a résonné et résonne encore dans la société tout entière, dans l'Église bien évidemment, et d'une manière toute particulière dans la compagnie de Jésus. Les mots du premier pape jésuite sur la protection de la maison commune ont transformé la dynamique de la compagnie. Au-delà d'une démarche éco-spirituelle, il y a aussi les gestes concrets pour rendre la vie en communauté plus verte. Comme nous l'explique le père Olivier de Wavrin, il est délégué Laudato si dans la province jésuite d'Europe occidentale francophone.
À l'échelle de la province, on a fait réaliser par tous les compagnons un premier bilan carbone il y a 3 ans. Et donc chaque compagnon connaît non seulement son empreinte carbone, mais ses évolutions. Après, on a eu une retraite de province sur Laudato si. Donc vraiment, la conversion personnelle et la conversion écologique liées. Ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours lier conversion individuelle et travail communautaire. On a des soirées de communauté sur la question écologique, des temps de prière pour que l'écologie, on puisse infuser, en parler, choisir aussi ensemble ce qu'on fait, comment on fait évoluer nos modes de vie. On réduit le chauffage à 19 dans toutes nos maisons. Pour tous les déplacements de moins de 12 heures, on doit opter pour le transport terrestre plutôt que le transport aérien. Donc en fait, basiquement, ça veut dire que le Paris-Rome, on le fait toujours en train. Et puis, on passe à 9 repas végétariens par semaine, au minimum, dans chaque communauté. Donc ça a été une décision de la province pour, à partir du premier bilan carbone, on s'est dit, nos principaux postes d'émission, c'est ça, et tout le monde avance.
Voilà le père Olivier de Wavrin, délégué Laudato si dans la province jésuite d'Europe occidentale francophone. Une interview à retrouver en long format sur notre site internet. C'est une sécheresse jamais vue depuis des décennies dans le nord de l'Europe. Depuis plusieurs semaines, de l'Écosse aux Pays-Bas, en passant par la France et la Belgique, on manque de pluie. Conséquences, on les connaît déjà, les rendements des cultures qui sont en train d'être semées seront sans doute réduits, avertissent les experts. La Russie et l'Ukraine devraient échanger des prisonniers. En tout cas, c'est ce qu'annonce Donald Trump il y a quelques minutes sur son réseau social. Pour l'instant, pas de confirmation de Kiev ou du Kremlin. Violences verbales, sexistes, menaces de viol ou autres violences sexuelles, également des fouilles au corps humiliantes. En Géorgie, les femmes qui osent défier les autorités sont violemment réprimées et humiliées par les forces de police. C'est ce que révèle un rapport d'Amnesty International publié aujourd'hui. Depuis le début des manifestations pro-européennes, c'était en novembre 2024, de nombreux témoignages rapportent des scènes de brutalité policière et de nombreuses agressions physiques et psychologiques infligées aux manifestantes. Des traitements qui, selon Denis Krivoshif, le directeur adjoint pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale d'Amnesty, sont inhumains et dégradants.
Nous avons documenté une forme de représailles très clairement dirigée vers les femmes. Les autorités ciblent les manifestantes et le font d'une manière qui les blesse. L'un des exemples les plus choquants, c'est la pratique consistant à déshabiller complètement les femmes lorsqu'elles sont détenues. Cette pratique est tout à fait illégale, rien dans la loi géorgienne l'autorise. Au contraire, la loi l'interdit expressément. C'est également illégal au regard du droit international. Mais si vous êtes une femme et que vous êtes arrêtée lors d'une manifestation, ce qui arrive à de nombreux manifestants pacifiques et que vous êtes emmené au poste de police, c'est ce qui peut arriver. Et nous parlons des cas dans lesquels nous savons que des femmes ont été assez courageuses pour parler de cette expérience humiliante et franchement pénible, et nous soupçonnons que beaucoup d'autres n'en ont pas parlé publiquement parce que c'est humiliant, stigmatisant et douloureux. Le contexte de la violence d'État actuelle en Géorgie, c'est la protestation contre les politiques gouvernementales et la nouvelle législation qui a été mise en place pour écraser la dissidence, pour écraser le mécontentement et pour s'assurer que les gens ne se sentent plus libres de s'exprimer, de critiquer le gouvernement et de descendre dans la rue pour protester s'ils estiment qu'ils doivent le faire. C'est illégal. Cela porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes.
Des propos recueillis par Augustine Asta. Au Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, les affrontements continuent entre le camp du président Salva Kiir et celui de son rival et vice-président Riek Machar. Selon les Nations Unies, au moins 75 civils ont été tués, cela depuis le mois de février. Des meurtres dans des bombardements aériens et des attaques terrestres, mais également fluviales. Le Sénat de la République démocratique du Congo lève l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, l'ancien président. Il a été au pouvoir pendant 18 ans et la levée de l'immunité parlementaire ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre celui qui était également sénateur à vie. Il est accusé par la justice militaire de RDC de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, aux côtés de la rébellion AFC et du groupe M23. Son entourage dénonce une manœuvre politique de l'actuel président Félix Tshisekedi. À Kinshasa, Pascal Moulégois.
C'est une décision historique. Joseph Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans et qui siège depuis comme sénateur à vie, sera désormais poursuivi par la justice militaire. Il est accusé de complicité avec le groupe armé M23 dans un contexte de guerre persistante dans l'est du pays. La décision est tombée après un vote sans appel, 88 voix pour, 5 contre, les tout retransmis en direct à la télévision nationale. L'M23 soutenu par le Rwanda s'est récemment emparé des villes de Goma et Bukavu. Kinshasa accuse Joseph Kabila d'avoir joué un rôle actif dans cette rébellion. Le procureur général militaire évoque des faits graves, trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Du côté du camp Kabila, on crie au scandale. Les PPRD, son parti, parle d'un théâtre politique destiné à masquer l'impuissance du pouvoir en place face à la crise dans l'Est. Cette affaire fait grand bruit, d'autant que certains juristes estiment qu'un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat réuni en congrès aurait été nécessaire. Mais le Sénat s'est appuyé sur une lecture différente. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
En Ouganda, la justice refuse la libération sous caution d'une figure de l'opposition, Kizza Besigye. Il s'agit de l'ancien médecin personnel du président Museveni, au pouvoir depuis 1986, devenu aujourd'hui une figure principale de l'opposition ougandaise. L'accord est historique. Hier, l'archipel des Chagos a été officiellement rétrocédé à l'île Maurice, une archipel de 55 îles située au milieu de l'océan Indien, entre Maurice et le Sri Lanka, qui avait été vidé de sa population par les Britanniques dans les années 1970 pour y installer une base américaine. Monseigneur Jean-Michel Durone, évêque de Port-Louis à l'île Maurice, témoigne de la joie de l'église locale qui a accompagné les Chagossiens et les Chagossiennes dans leur exil de plus de 50 ans.
Je crois d'abord une joie profonde pour d'abord mes frères Chagossiens. C'est ce long combat, ils l'ont mené et aujourd'hui, ils auront droit de retour inconditionnel sur leur terre natale. À partir de 71 et 73, il y aura toute cette déportation de la population chagossienne vers Maurice, vers un peu aux Seychelles, donc et à Galega. Nous, on parle au niveau biblique un exil, comme le peuple qui a connu de Jérusalem à Babylone. Mais on peut dire que ce peuple a été déraciné de leur terre, de leur culture, et que ça a causé beaucoup de traumatisme. Et l'Église, on était conscient de ça, hein, de, quand ils sont arrivés à Maurice, sans logement, sans racines ici, hein, culturelles. Il faut reconnaître aussi ces femmes chagossiennes qui ont pris le flambeau. Moi, je dirais que l'Église est venue soutenir déjà le combat, mais elles ont montré d'abord, ces femmes chagossiennes, une grande résilience, hein, une grande capacité de de se mettre debout.
Voilà, Monseigneur Jean-Michaël Durosne, l'évêque de Port-Louis, au micro de Jean-Benoît Harel. On vote ce week-end au Venezuela pour des élections législatives et la région de l'Essequibo est au cœur des enjeux. Une région riche en pétrole que Caracas réclame au Guyana voisin. Pour le scrutin de dimanche, le pouvoir de Caracas a réorganisé le découpage électoral et aspire à y installer 8 députés. Une menace et une opération de communication, selon le président du Guyana. Merci de votre écoute. L'information revient en direct tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite déjà un très bon week-end.